Bonjour, je m'appelle Antoine Moreau, je suis physicien, je suis en fait ce qu'on appelle un enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je travaille à l'université et que la moitié de mon temps, à peu près, je fais de la recherche et l'autre moitié, j'enseigne à des, en général, beaucoup plus grands que moi. Donc, je suis physicien, je ne suis pas un spécialiste de développement durable dans la mesure où ce n'est pas mon sujet d'étude. Il faut aussi remarquer que le développement durable en lui-même, ce n'est pas vraiment le sujet d'étude de... Il n'y a pas des gens qui s'occupent juste du développement durable, c'est tellement multidisciplinaire que ça fait appel à un peu tout. Moi j'y touche notamment parce que en fait, ma spécialité en physique c'est la lumière et que j'essaye entre autres de faire des panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça, je ne les fabrique pas, mais j'essaye d'inventer les panneaux photovoltaïques un peu du futur si on peut, et essayer de voir ce qu'on peut arriver à faire avec. Voilà, ça j'y touche et donc c'est en ça en partie que je touche au développement durable, mais ce n'est pas mon sujet de recherche. Seulement, j'ai une idée de ce qu'il fait globalement et j'essaie de donner en général la vision qu'ont les scientifiques. Parce que si ce n'est pas la vision que j'ai, parce que je n'ai pas une vision absolument sur tout, en général, ce que je fais pour préparer ce type de conférence, c'est que je vais chercher dans ce qu'on appelle la littérature scientifique, c'est-à-dire des articles publiés par d'autres scientifiques, qui essayent d'expliquer les enjeux qu'eux, ils ont réussi à isoler. Et vous allez voir, donc, je vais vous donner quelques éléments. Donc, dans la mesure du possible, toujours scientifique, c'est-à-dire assez. Et le plus éloigné possible, finalement, de toute question idéologique ou militantiste ou écologiste, si on veut. Voilà, l'idée, c'est de dire quels sont risque d'être les problèmes qu'on va rencontrer si on continue à se développer de la manière dont on le fait maintenant. Alors, c'est parti, un petit plan rapide de mon intervention. Alors, d'abord, un petit historique de la notion de développement durable. On en parle énormément aujourd'hui, mais ça ne date pas tout à fait d'hier, encore que ça ne date pas d'il y a extrêmement longtemps. On va voir que c'est une date relativement précise. Ensuite, le grand souci, c'est d'arriver à pouvoir dire quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de se développer de façon durable ou pas, et de combien il en faut pour qu'on se développe de façon durable. Il est utile pour ça d'arriver à quantifier un petit peu ce que ça peut être le développement durable. En développement durable, il y a deux choses, il y a développement et durable. On peut évaluer à quel point on est en train de se développer, à quel point nos sociétés sont développées, et à quel point on est en train de le faire de façon durable ou pas. Est-ce que ça peut durer comme ça ? On verra que la réponse est un peu relativement négative, au moins sur notre façon de nous développer actuelle. Et on verra ce que l'avenir risque de nous réserver en matière de développement durable, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir se développer de façon réellement durable. Puisqu'à priori, c'est vers ça qu'on tend tous. On essaie de... Alors, un peu d'histoire. Finalement, le développement durable, il est résumé quasiment dans toute la difficulté. Puis énormément de choses, aussi le côté pourquoi est-ce qu'on s'en occupe maintenant, c'est en gros résumé dans cette courbe. Cette courbe, c'est la croissance de la population humaine depuis les années moins 10 000, c'est-à-dire le début de ce qu'on appelle l'Holocène, c'est la période géologique qu'on vit en ce moment. On est sorti en fait il y a 12 000 ans maintenant, de la dernière glaciation. Et depuis, on a un climat qui est exceptionnellement doux. Hein, on n'a pas de nouveau glaciation, et exceptionnellement stable. Ça fait 12 000 ans que le climat n'a pas changé. Et ça a permis, parce que les hommes sont là depuis bien plus longtemps, mais ça a permis aux hommes d'inventer la civilisation, puis finalement de se développer de façon assez extraordinaire, puisque en partant de quelque chose de tout petit, lorsqu'on voit là sur l'axe des ordonnées, le nombre de milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, on voit qu'on est parti de pas grand-chose, qu'aux alentours de l'an 0, on était peut-être à 200 millions d'êtres humains sur Terre, et qu'en 2000 ans, on est passé de 200 millions à 6,7 milliards. Que notamment, cette croissance s'est accélérée dernièrement, finalement, dans les années entre 1500 et 2000, c'est là qu'on a eu finalement une multiplication de la population par plus que 10. Donc en l'espace de moins de 500 ans. Alors, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Alors, qu'est-ce que c'est une croissance exponentielle? Donc ça, c'est juste pour le redire. C'est une croissance, on en entend parler notamment en économie. On espère qu'on aura une croissance d'environ 1% par an, 2%, 3%. Tout le monde veut aller chercher avec les temps, tout ce qu'on veut. Quand on parle de pourcentage par an, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça peut paraître peu, 1% de croissance par an, mais c'est peut-être... Enfin, donc pour la population, c'est dur de le dire, mais en tout cas, notre consommation énergétique croît à peu près d'un peu plus de 1% par an. Donc ça peut paraître peu, on va voir les effets que ça peut avoir. Alors, Il se trouve que donc cette croissance exponentielle démarre à la fin de la dernière glaciation et que c'est bien une sorte de la science hein, qui a permis finalement de la continuer. Et voilà, on est à 6,7 milliards d'années. Alors, une croissance exponentielle sur l'énergie, c'est un exemple, hein, voilà ce que ça peut donner. Donc, si on envisage une croissance de 1% par an, sachant que pour l'instant, donc c'est une multiplication tous les ans hein, de 1 par 1,01, c'est-à-dire qu'on augmente finalement un tout petit peu. La seule chose, c'est que quand on fait ça tous les ans, au bout de 20 ans, en fait, on n'a pas augmenté de 20%. On a augmenté de plus que ça. On a augmenté de plutôt 30%. Et puis, c'est un phénomène qui continue, c'est-à-dire que la croissance, elle se fait aussi sur ce dont ça a cru juste avant. C'est-à-dire la deuxième année qu'on a 1%, les 1% portent sur les 1% de l'année d'avant. Et c'est ça qui explique à quel point c'est rapide comme croissance. Alors, pour l'instant, la Terre reçoit 10 000 fois ce dont l'humanité a besoin sous forme d'énergie solaire, ce qui nous laisse de la marge. La seule chose, c'est que si on envisage une croissance de 1% pendant 1000 ans, alors on a besoin de la totalité de cette énergie. Or, 1000 ans de croissance à 1%, c'est ce qu'on espère finalement. Hein, c'est une croissance ininterrompue. Donc, ça va être difficilement possible. Et puis, si on attend 3200 ans, alors non seulement on a besoin de toute l'énergie reçue par la Terre, du Soleil, mais on a besoin de toute l'énergie dégagée par le Soleil complètement. Il faudrait imaginer qu'on couvre l'intégralité du tour du Soleil de panneaux solaires, très efficaces, pour pouvoir combler nos besoins énergétiques. Donc, il y a une chose qui est évidente. C'est que ça va être difficilement faisable. Et c'est vraiment ça, associé à la courbe de croissance de la population, qui va expliquer finalement pourquoi est-ce qu'en ce moment on est en train de se poser la question des limites à mettre à notre développement. Alors les limites au développement, c'est vraiment une très vieille question. Ça a commencé donc juste aux alentours de la Révolution française, un peu après, quand Malthus s'est demandé si on pourrait continuer, la population pourrait continuer à croître à la vitesse à laquelle elle était en train de croître à l'époque, étant donné les technologies et les surfaces agricoles disponibles, et la réponse était plutôt non. Donc ils étaient relativement inquiets, et c'est là qu'ils ont décidé de limiter les naissances, et de dire qu'il fallait peut-être s'abstenir de faire énormément d'enfants, contrairement à ce que prônait l'Église, notamment à l'époque. Et simplement, finalement, ça ne s'est pas arrêté, et on a réussi à continuer cette croissance de la population, notamment grâce à la découverte des énergies fossiles, puisque dans les années 1800-1900, on est entré dans la révolution industrielle, on s'est mis à comprendre que le charbon pouvait travailler à la place des chevaux. En gros, c'était ça l'idée, et finalement, il pouvait travailler beaucoup plus, et puis qu'on pouvait, comme ça, cultiver les champs et nourrir beaucoup plus de monde. Au cours du XXe siècle, on a compris deux choses très importantes. D'une part, qu'avec toute l'énergie que représentaient les énergies fossiles, on pouvait faire la guerre de manière extrêmement efficace, avec des trucs énormes, comme on n'avait jamais vu. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale, finalement, la découverte qu'on pouvait faire rouler des tanks, voler des avions, larguer des bombes, parce que toute l'énergie même qu'il y avait dans les bombes, elle vient au départ essentiellement du pétrole et du charbon. Et puis, on s'est arrêté de faire la guerre, et on a découvert la puissance des énergies fossiles en temps de paix. C'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, une période en fait de croissance ininterrompue d'environ 30 ans, et où, pour lequel le rythme de croissance d'énergie était d'environ plus de 3% par an. Ça s'est arrêté en fait avec les chocs pétroliers, un peu avant les années 80, 70-80. Et donc, voilà, l'inquiétude de Malthus initiale a été repoussée jusqu'à en gros ben, la fin de cet âge de croissance effrénée. En voyant arriver les chocs pétroliers, les problèmes énergétiques, il y a des gens qui ont commenté à des scientifiques un rapport, et l'idée c'était de leur demander est-ce que d'un point de vue scientifique c'est faisable de continuer à se développer comme pendant les 30 glorieuses de façon quasiment infinie. Alors ils ont fait un truc qui n'avait jamais été fait, c'était de mettre l'humanité en équation, c'est-à-dire essayer de prévoir ce qui pouvait lui arriver. Donc on a mis, c'est simple, on a dit ben voilà, la population croît, elle croit évidemment que si elle a assez de nourriture. Donc, s'il y a moins de nourriture disponible, elle va se mettre à décroître. Il y a plusieurs choses, il y a énormément de choses qui ont été prises en compte avec les connaissances de l'époque. Par exemple, si vous cultivez trop rapidement ou trop fort un champ, vous allez en fait le rendre moins productif les années d'après. Donc, en voulant nourrir tout le monde, vous allez précipiter en fait des problèmes de famine ensuite si vous dégradez trop la qualité de vos sols. C'est ce genre de boucle de rétroaction, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, c'est pas aux gens qui font des électrotechniques que je vais apprendre ça. Qui a été prise en compte, qui ont été prises en compte, et donc on a mis tout ça en équation. Et le problème, on s'est aperçu que vers 2100, il risquait d'y avoir un gros problème. Tous les scénarios, en gros, aboutissaient à une sorte de catastrophe, c'est-à-dire une diminution un peu trop brutale de la population. Bien. Donc, ça a suscité énormément de réactions. Tout le monde a dit oui, mais non, mais c'est pas vrai, tout ça. Parce que ça ne collait pas vraiment avec ce qui se faisait à l'époque, puis c'est loin, 2100, c'est même encore loin aujourd'hui. Alors, pour répondre un peu à cette inquiétude qui est quand même née du rapport Meadows, il y a un rapport qui a été commandé par l'ONU et qui était « Est-ce qu'on peut arriver ?» Oui ou non. Alors, l'idée du rapport Meadows, c'était « On ne peut pas continuer à se développer de la manière dont on le fait très longtemps. » Là, l'idée, c'était « Est-ce qu'il existe une façon, ou pas, de se développer de manière à ce que ça n'empêche pas les générations futures de se développer aussi ?» Alors, se développer, ça ne veut pas nécessairement dire du coup consommer plus d'énergie, mais être de plus en plus développé scientifiquement, culturellement, d'avoir une espérance de vie, toujours ce genre de choses. C'est ça, être développé. Et c'est ça, finalement, les besoins des générations futures. Donc l'idée, est-ce que nous, on peut satisfaire ces besoins en laissant la possibilité aux autres générations, à vous, par exemple, puisque vous n'étiez pas beaucoup nés à cette époque-là, à vous de satisfaire les mêmes besoins. La réponse, ça a été que ça n'allait pas être très simple, mais qu'a priori, ça devait être possible. C'est vraiment ce qu'il faut penser. Donc c'était la question qui leur a été posée, et donc le terme de développement durable apparaît en 1987. Avant, il n'existait pas. Alors il y a eu un exemple d'application très très rapide finalement, puisque c'était dans les mêmes zones, c'était le problème de la couche d'ozone. En 1985, on s'est aperçu que ce qu'on appelait les CFC, les fluorocarbones, c'était des gaz chimiques qu'on avait commencé à produire pour les mettre dans les frigos. En fait, ça servait dans au fonctionnement des frigos. On a découvert qu'en fait, c'était capable de détruire la couche d'ozone. Alors, ce qu'on appelle la couche d'ozone, c'est une couche d'ozone qui se situe donc en stratosphère, c'est-à-dire là où les rayons solaires arrivent sur l'atmosphère. Et cette couche, elle empêche, elle absorbe les ultraviolets, donc elle empêche les ultraviolets de brûler toute vie sur Terre. Parce que, en fait, s'il n'y avait pas la couche d'ozone, il n'y aurait sans doute pas de vie sur Terre. Il y aurait de la vie dans la mer, comme c'était le cas au début. Mais c'est l'arrivée de la couche d'ozone qui a permis, en fait, le développement des animaux et des plantes sur Terre. Sinon, ça brûlerait trop facilement. Au sens coup de soleil et tout ça, hein, les êtres vivants auraient du mal à se développer. On s'en aperçoit à temps, donc en 1985, on a fait un trou au-dessus de l'Antarctique. Alors, les scientifiques ont très vite tiré la sonnette d'alarme, et en 1987, c'est-à-dire en 2 ans, ils ont réussi à mettre à peu près tous les pays du monde d'accord, et ils se sont mis d'accord pour arrêter de produire ces gaz. Et depuis, alors ça ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire que le trou dans la couche d'ozone, il a continué à se creuser, parce qu'on avait déjà envoyé trop de gaz, hein, on ne pouvait pas les récupérer. Et donc c'est en 2006 qu'il a atteint qu'il a été le plus grand. Et on espère maintenant que ça se stabilise, qu'en 2060, on sera revenu à la situation des années 80. Là, ça va mettre beaucoup de temps à revenir, mais on espère qu'on y reviendra. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, les gens prenaient sans doute moins de coups de soleil, aussi parce qu'ils allaient moins à la plage, mais dans les années 50, il y avait moins de problèmes de coups de soleil. Ensuite, il y a eu un deuxième exemple d'application, et ça, vous en avez déjà entendu parler, c'est le GIEC, le Mouvement International d'études du climat. En fait, l'idée que le dioxyde de carbone pouvait produire un changement climatique, c'est une très vieille idée, mais il n'y a que dans les années 90 qu'on a commencé à pouvoir dire de combien le dioxyde de carbone risquait de réchauffer la planète. C'est ça l'essentiel. Donc, ce qui est nouveau, c'est que les scientifiques disent, essaient de s'adresser, c'est une deuxième fois en quelque sorte, à la population mondiale pour dire qu'il va y avoir un problème. Ce problème, c'est que le CO2 que vous rejetez va créer un changement climatique majeur. Majeur, ça veut dire entre 2 degrés de plus en 2100 et 6 degrés de plus en moyenne. Il faut savoir que 6 degrés de plus, 6 degrés de différence, c'est à peu près ce qui nous sépare de la dernière glaciation. D'accord ? La dernière glaciation, en fait, faisait en moyenne 6 degrés de moins sur Terre. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va un peu dans l'inconnu, on va dans un climat beaucoup plus chaud, comme il existait il y a plutôt 65 millions d'années, et qui avait disparu depuis. Bref, le CO2 apparaît comme une vraie pollution, alors que jusque-là, ce n'était pas trop le cas. On parlait peut-être plus de déchets nucléaires, autre chose comme ça, qui était inquiétante, mais pas tellement du CO2. Là, c'est ça qui est nouveau avec le GIEC, c'est que, en s'adressant à la population mondiale, on prend conscience que c'est le CO2 le problème. Alors, le développement durable aujourd'hui, bah, tout le monde en fait, tout le monde essaye d'en faire, c'est extrêmement, on va dire, à la mode. Vous avez un peu vu pourquoi, vu l'historique, c'est-à-dire que de plus en plus de signaux d'alarme s'allument en quelque sorte. On va essayer de les détailler un petit peu, sans doute. Et donc, ben, finalement, tout le monde prend conscience du problème et essaie de s'impliquer, y compris les entreprises. On voit beaucoup dans les publicités, comme c'est le terme du développement durable. Et c'est une sorte, il faut résoudre une contradiction pour faire du développement durable, la contradiction entre le développement, qui par exemple s'est jusqu'à maintenant toujours accompagné d'une consommation plus grande d'énergie, de surface, de tas de choses comme ça. Hein. Pour l'instant, la croissance économique, c'est la croissance de la consommation, essentiellement. Et puis, de l'écologie, où il s'agit de préserver la planète, pas tellement, on va être très sincère, d'accord ? Il ne s'agit pas du tout, dans le développement durable, de faire de l'écologie pour l'écologie. C'est-à-dire que nous, on va voir, quand on va parler de développement durable, la planète comme quelque chose qui nous fournit des services. Et la question, c'est combien de temps ces services vont pouvoir durer ? Par exemple, si vous pêchez trop de poissons dans les océans, au bout d'un moment, il n'y en aura plus assez pour vous nourrir. Donc vous aurez trop tiré sur le service que la nature vous prend, et ça va poser un gros problème. Donc l'idée, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut tirer sur la nature, d'accord ? Et non pas hein, de protéger, pour une raison arbitraire, la nature. L'idée, c'est pas de protéger la nature, mais de continuer à survivre dans la nature, en profitant des services qu'elle nous rend. Donc il faut essayer de mesurer le développement humain. Alors comment le mesurer ? Alors mesurer le développement humain, ça c'est quelque chose qui est plutôt facile. Bien sûr, on peut regarder la richesse des pays, le produit intérieur brut, le PIB, mais ce n'est pas complètement représentatif du bonheur d'un pays. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est très riche qu'on est très content. Par contre, on peut dire que le bonheur, c'est plutôt lié à trois choses. Bien sûr, il y a hein, la richesse, c'est le troisième point. Quand même, quand on est un pays riche, la vie est quand même plus cool. Ensuite, il y a deux autres choses, c'est l'espérance de vie. Il vaut mieux être dans un pays où l'espérance de vie, comme chez nous, c'est de l'ordre de 80 ans, que dans un pays où l'espérance de vie, c'est de l'ordre de 40 ans, voire moins, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique. Forcément, c'est un peu plus facile de vivre dans ces conditions-là. Et puis, l'alphabétisation, ça reflète, bon, le nombre de gens qui savent lire reflète en gros le degré d'éducation globale de la population. Et ça, c'est aussi un facteur qui participe au bonheur des gens. On est souvent plus heureux quand on est un peu plus cultivé. Donc ça, c'est facile à mesurer, et puis la difficulté, c'est de mesurer ce qu'on va appeler l'empreinte écologique, c'est-à-dire à quel point on imprime notre empreinte sur la planète, à quel point on tire sur ses ressources. Ça a été proposé en 1992 par des chercheurs des sciences humaines, donc pas des sciences dures au départ, et il s'agissait de mesurer l'impact des activités humaines sur la planète. Et c'est ce que je vous disais, l'idée, c'est vraiment de voir la planète comme quelque chose qui nous fournit des services, pas du tout de faire de l'écologie pour faire de l'écologie. Et les services qu'elle nous fournit, c'est essentiellement la nourriture, parce qu'il n'y a pas moyen tellement de faire pousser la nourriture en dehors de la nature. De l'énergie, ça c'est pour le bois, pour on ne compte pas l'hydraulique dans l'empreinte écologique, encore enfin, de façon indirecte, mais c'est surtout pour le bois. D'accord, le bois, c'est quand même, ça a été pendant toute l'histoire de l'humanité, ou presque, le bois, c'était la source d'énergie principale. Quand on avait froid, on brûlait du bois. On s'en servait vraiment comme source d'énergie principale. Il y avait aussi un peu les animaux et les plantes qu'on mangeait, mais c'était surtout le bois pour pas mal d'usages. Et puis, il n'y a que finalement 150 ans, on a autre chose que le bois. Mais donc le bois, ça reste pour beaucoup de pays qui sont assez peu développés, une source d'énergie très très importante. Bref, c'est un gros service que la nature nous rend. Et puis, il y a l'élimination du CO2. Là, il faut que je vous explique un tout petit peu. Si vous faites pousser une forêt, elle prend le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, elle le transforme en bois. Tant que vous ne brûlez pas le bois, ce CO2-là, il est stocké, en quelque sorte. C'est une façon de prendre le CO2 dans l'atmosphère et de le stocker. Donc, quand vous brûlez du bois, par exemple, vous ne faites que rejeter du CO2 qui était déjà dans l'atmosphère. Donc ça, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de brûler du bois. Par contre, ce qui est plus grave, c'est de brûler du pétrole. Parce que du pétrole, c'est du CO2 qui était stocké, parce que ça vient des plantes. Hein. Le pétrole, c'est des plantes fossiles. Mais ça a été stocké sous terre, ça veut dire qu'il y a très très longtemps, des millions d'années, il n'était pas ressorti. Si vous le faites ressortir, ça pose un problème climatique. Alors que quand vous brûlez du bois, ça n'en pose pas. Bref, si vous faites pousser vos forêts, c'est une façon de capter le CO2. Et pour la France, par exemple, il y a plus de forêts maintenant qu'il y en avait au début du XXe siècle, en 1900, parce qu'en 1900, ils utilisaient beaucoup de bois et qu'on en utilise moins maintenant. Donc, on a stocké du CO2. Et ça, c'est aussi un service que la nature nous rend. Et on pourrait même espérer stocker tout le CO2 que nous, on a envoyé en l'air en brûlant du pétrole. Mais il faudrait faire beaucoup pousser les forêts, et on n'est pas trop sur cette voie-là. Alors, voilà les critères qu'on va considérer pour l'empreinte écologique. Vous en avez entendu parler de l'empreinte écologique. On vous a déjà dit qu'en fait, on consommait pour l'instant une planète 1,4 tous les ans. Peut-être vous avez entendu ce chiffre-là, en fait. Je vais essayer, bon, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui se dit dans les médias, en fait, de sensibiliser les gens, comme ça. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire exactement, parce que ça peut paraître bizarre de se dire qu'en fait, on utilise tous les ans une planète et demie, sachant qu'on n'en a qu'une. Donc je vais vous montrer comment ça peut se faire. Alors on prend en compte les surfaces cultivables, parce qu'elles, elles nous fournissent des céréales. On prend en compte les pâturages, parce qu'eux, ils nous fournissent de la viande. On prend en compte les forêts, parce qu'elles nous fournissent du bois, donc de l'énergie. On prend en compte les domaines de pêche, parce que ça nous fournit du poisson. On prend en compte l'empreinte carbone, c'est-à-dire que on va compter en fait le CO2 dans cette empreinte de la façon suivante. On va se demander quelle surface de forêt il faudrait pour absorber notre dioxyde de carbone. Donc du coup, ça va permettre de faire rentrer le CO2 dans le calcul. Et puis, on prend en compte aussi les surfaces construites, parce que quand on construit une autoroute, et bien en fait, on construit en général sur des bonnes terres, voilà, des forêts, des choses comme ça, et on les remplace par quelque chose qui ne produit pas, ça compte dans l'empreinte écologique. Et l'unité de l'empreinte écologique, c'est la surface. C'est simple. En gros, ça vous dit combien vous, individuellement, vous avez besoin de surface sur Terre pour vivre, c'est-à-dire pour vous fournir vos céréales, votre viande, vos poissons, le bois que vous brûlez si vous brûlez du bois, et combien de surface il vous faudrait pour absorber le CO2 que vous émettez. Voilà. Et aussi, quelle surface il faut pour construire votre maison, cultiver les routes que vous prenez. En gros, combien, chacun d'entre nous, de combien de surface on a besoin. Et on parle en hectare global, c'est-à-dire un hectare moyen. Un hectare qui a un rendement moyen. Voilà. Bien. Donc, ça permet de donner une indication sur est-ce que ce qu'on fait, c'est durable ou pas. Si par exemple, on consomme une planète, on sait qu'a priori, on peut continuer à consommer de façon quasiment éternelle, parce que tous ces services-là, c'est des services que la nature peut nous rendre tous les ans sans problème. Si on consomme plus d'une planète, ça veut dire qu'on est en train de tirer trop sur les services que nous fournit la nature et qu'en fait, elle ne va pas pouvoir nous les fournir à l'infini. Donc, ça permet de dire que le développement n'est pas durable. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, on dispose en fait de 12 milliards d'hectares moyens. Et moyen, ça veut dire que, en fait, si vous avez un hectare ici en France, les hectares sont souvent très productifs. Hein. Un hectare de céréales, il a un rendement qui est deux fois supérieur à la moyenne mondiale. Du coup, un hectare français, on va le compter comme 2 hectares. C'est ça l'idée. Donc on aurait besoin de 12 milliards d'hectares moyens, on aurait besoin, de 17 milliards d'hectares moyens pour nous rendre tous les services que la nature nous rend actuellement. C'est ce chiffre-là que je vais essayer d'expliquer. Théoriquement, donc, on disposerait chacun de 1,8 hectare pour faire tout ce dont on a besoin. Et autant les Indiens, les Asiatiques en général, utilisent moins de 1,8 hectare, autant nous, en France, on en utiliserait plutôt 5 sur la planète. Donc, en France, notre mode de développement est particulièrement pas durable. Donc, il faudrait 2,5 planètes pour que le monde entier vive comme nous vivons. Il y a des choses sur quoi il va falloir économiser, d'autres pas. On va voir ce que c'est. Alors, déjà, comment ça peut se faire de consommer 1,5 planète alors qu'on en a qu'une? En fait, voilà. J'ai mis à gauche les chiffres, en fait, l'empreinte écologique. Et à droite, la capacité de la planète en termes d'hectares. Alors par exemple, pour l'instant, l'empreinte écologique, moyenne mondiale, c'est 2,6. Et on aurait, c'est ce que je vous disais, que 1,8 de disponible. Alors pour les cultures, en gros, on est au maximum, même si ça peut se discuter un petit peu. On est au maximum, c'est-à-dire que, en gros, on utilise à peu près tout les champs utilisables dans le monde en moyenne. Vous verrez qu'en France, ce n'est pas tout à fait comme ça. On n'utilise pas tout à fait tous les pâturages. Donc là non plus, il n'est pas tellement possible de dépasser en termes de culture. On ne peut pas dépasser ce qui est disponible sur la planète pour les cultures. On ne peut pas trop dépasser non plus pour les pâturages, ni pour la forêt, ni pour les poissons. Donc la forêt, en fait, elle est encore sous-exploitée. C'est-à-dire qu'on pourrait y prendre plus de bois. Je ne parle pas de préserver la biodiversité ou des choses comme ça, mais je dis qu'on pourrait l'exploiter plus dans la forêt. D'ailleurs, on pourrait aussi transformer la forêt en culture, si on a besoin. D'accord? Puisqu'il y a de la marge sur les forêts. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre ces chiffres avec un petit peu de recul. Pour les poissons, on tire quand même pas mal dessus, puisqu'il y a en gros, disponible par habitant, 0,18 hectares de surface de mer productive en poissons. Et qu'on en utilise 0,11. Pour les constructions, bah, évidemment, tout ce qu'on utilise, on prend ce qu'on peut sur la surface. Et vous voyez qu'il y a un poste qui n'a pas de vrai, qui est un peu particulier, c'est le carbone. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il explique déjà quasiment la moitié de notre empreinte. Et lui, en fait, s'il est là tout seul, c'est que ça veut dire qu'il n'est pas. En fait, la nature n'est pas en train de l'absorber. D'accord ? On le rejette dans l'atmosphère. Et on n'est pas du tout en train de l'absorber, et il nous faudrait, à chacun individuellement dans le monde, 1,44 hectare de forêt en train de pousser pour absorber le carbone qu'on est en train d'émettre. Donc c'est là, essentiellement, quand on fait tous ces calculs, qu'apparaît le gros problème. Donc ça concorde un peu avec ce que dit le GIEC. Le problème, c'est le carbone, c'est-à-dire le dioxyde de carbone qu'on envoie en l'air. Alors, il y a une bonne question maintenant qu'on sait comment mesurer le développement durable, c'est est-ce que quelqu'un y arrive? Alors voilà le chiffre en 2009, vous voyez tous les petits points là, chaque petit point c'est un pays. Alors, on a 6 là en bas, on a représenté l'indice de développement humain. Donc plus un pays est situé vers la droite, plus en fait il est considéré comme développé. Hein, c'est l'indice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Plus un pays est vers la gauche, moins il est développé. Donc par exemple, on va prendre les petits points jaunes que vous voyez en bas à gauche. Ça, c'est les pays d'Afrique, qui sont considérés comme étant, d'après l'indice de développement humain, les moins développés. Et puis, verticalement, on trouve le nombre d'hectares par personne d'un pays considéré, utilisé, donc l'empreinte écologique. Alors, vous voyez le carré bleu en bas? C'est le carré dans lequel il faudrait être pour faire du développement durable. Parce que c'est le carré qui correspond à la fois à un développement humain très important et à une faible empreinte écologique. Est-ce que vous voyez quelqu'un dedans?
Non.
Donc en fait, sur la planète, pour l'instant, personne ne fait vraiment du développement durable. Pourquoi? Mais parce que finalement, quand les pays se développent, c'est-à-dire qu'ils sortent de la zone en bas à gauche, ils ont l'air de suivre une trajectoire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent à consommer du pétrole. Beaucoup de pétrole, avoir une empreinte carbone très importante, et au final, finalement, tout le monde rêve d'être comme nous. Alors nous, comme on utilise 5 hectares, on va être dans les points bleus, là-bas, tout à droite. Les trois points que vous voyez tout en haut, à droite, c'est, alors pour le point le plus clair, les États-Unis, qui consomment 9 à 10 hectares par personne. Et pour les deux points tout en haut, ça doit être le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Parce qu'en fait, ils font une consommation effrénée du pétrole qu'ils produisent eux-mêmes. Donc du coup, leur empreinte écologique est juste énorme. Et voilà, puis ils sont aussi riches, c'est des pays très riches, donc ils se payent tout ce qu'ils veulent. Donc du coup, ils ne font pas tellement gaffe à leur empreinte écologique. Par contre, ils sont développés. Donc en gros, manifestement, le problème, c'est que tout le monde a envie de faire ça. Pas tellement faire ça. Voilà. Et ça veut aussi dire qu'en gros, on peut diviser les pays en deux grandes classes. Ceux qui sont en bas à gauche et ceux qui sont en haut à droite. Et donc, le développement durable, c'est pas le même pour tous les pays. L'idée, c'est que tout le monde n'a pas le même effort à faire. Voilà. Donc, le développement durable, on n'y est pas du tout, parce que pour l'instant, notre modèle de croissance, il est plus important que de faire du développement durable. On parle beaucoup de croissance économique et pas tellement de développement durable. Et puis, donc, notre croissance économique ne se fait pas de façon durable, puisqu'elle se fait avec la consommation d'énormément de pétrole. Alors, justement, à propos de pétrole et de développement durable, dans l'idéal, il faudrait que nos descendants aient du pétrole pendant très longtemps. Ça, c'est l'idéal. Le souci, c'est que voici une courbe qui vous montre, en jaune, les découvertes de pétrole. Chaque année, on découvre du pétrole nouveau. En rouge, ce qu'on consomme. Ce qu'on voit, c'est que depuis les années 80, on consomme plus que ce qu'on découvre. Donc, ça, c'est exactement le schéma de quelque chose qui n'est pas durable. On en est même rendu à un point où on consomme en ce moment 3 fois plus que ce qu'on découvre chaque année. Donc forcément, la courbe rouge va suivre, avec un certain décalage, la courbe jaune. Elle va croître, puis au bout d'un moment, elle va se mettre forcément à décroître, non pas parce qu'on voudra moins de pétrole, mais parce qu'on arrivera moins à le sortir. Voilà. Et on pense que ce pic-là, ce qu'on appelle le pic du pétrole, interviendra dans les années 2020. Donc à partir de 2020, on devrait avoir à notre disposition de moins en moins de pétrole. Alors, ça veut dire qu'on va forcément faire du développement un peu plus durable, mais ça, on peut encore envoyer tellement de carbone dans l'atmosphère qu'on peut vraiment bousiller le climat sans problème. Bousiller, ça veut dire de l'ordre ajouter en gros 8 degrés au climat actuel, ça peut se faire. D'accord ? C'est dans les scénarios, c'est le pire des scénarios prévus par le GIEC. Alors, on a vu comment mesurer le développement durable, il se trouve que les scientifiques se sont aussi posé la question de, bon, qu'est-ce qu'on peut identifier comme problème dans l'environnement qui pourrait nous empêcher de nous développer éternellement ? Ils en ont identifié 9. Il y a d'abord le changement climatique, parce que ça s'accompagne notamment de la montée des eaux, des choses comme ça. Il y a l'acidification des océans qui est due en fait au CO2 qu'on envoie dans l'air, qui se dissout dans l'eau, et après, il empêche les coraux et les mollusques de fabriquer leurs coquilles. Donc ça dissout aussi le calcaire dans l'eau. Ça empêche le calcaire, enfin le calcium est disponible pour les animaux dans l'eau. Il y a les aérosols. Aérosols, ça c'est très simple à comprendre. On en voit, ben, c'est la pollution. Quand vous imaginez une ville polluée, notamment il y en a en Chine, c'est des villes où il y a une sorte de brouillard permanent. Et le ciel est très noir, dû à la pollution, en fait, dû à au poêle qui marche au charbon. Et aux voitures, notamment aux diesel, qui éjectent des particules. Ces particules-là sont responsables, on estime, de 800 000 morts prématurées par an dans le monde. Il y a 800 000 personnes qui meurent par une crise, par un problème respiratoire, qui n'auraient pas eu ce problème s'il n'y avait pas eu ces aérosols. On n'est pas très concerné, c'est dans le monde, ouais, Et puis c'est souvent des gens, soit très jeunes, soit très vieux. Et voilà. Et nous, on n'est que moyennement concernés. Parce qu'on ne se chauffe pas tellement avec des poêles peu efficaces, mais c'est surtout, je vous dis, dans les pays d'Asie, où ils consomment énormément de charbon. Il y a la couche d'ozone dont je vous ai déjà parlé. C'est vrai que si on n'a plus de couche d'ozone, on ne peut pas faire de développement durable, on ne peut plus vivre à la surface de la Terre, ou presque. Il y a la pollution chimique, ça vous en avez entendu parler récemment. Vous avez entendu parler des produits chimiques dans les biberons, dans les puzzles, dans les plastiques pour les jouets, des choses comme ça. Alors, on ne sait pas mesurer l'impact de ça, c'est pour ça que les scientifiques sont un peu en mal de se prononcer, mais on les soupçonne de poser problème. Il y a l'eau, parce que l'eau, il y a 25% des rivières n'atteignent plus la mer, parce qu'on a détourné l'eau pour les hommes, pour les cultures. Mais ça, ça ne concerne pas très tellement en France. Il y a la déforestation, la biodiversité, donc le fait qu'on déforeste, la biodiversité, c'est-à-dire le fait que des espèces disparaissent. Et ce qu'on appelle le flux d'azote et de phosphore, c'est juste que quand on veut faire pousser les plantes, il faut leur fournir de l'azote et du phosphore. Et l'azote, on a appris à aller le chercher dans l'air, parce qu'il y a beaucoup d'azote dans l'air. La seule chose, c'est que les plantes savent assez peu l'utiliser. Nous, on a appris à le faire, on a fabriqué des engrais qui fournissent l'azote. Le problème, c'est que du coup, on a multiplié par 4 la quantité d'azote qui naturellement se transférait de l'air jusque dans la terre et dans les mers. Et je vais vous donner un exemple juste après. Juste une chose, il y a 3 de ces problèmes pour lesquels on est sûr, scientifiquement, qu'on a un peu dépassé les bornes. C'est-à-dire qu'ils vont nous poser problème et qu'on est en train de vraiment enfoncer les seuils qu'on ne devrait pas dépasser. C'est le changement climatique, la biodiversité et le flux d'azote et de phosphore. Le changement climatique, je vous ai dit, la question, c'est est-ce que ça se réchauffera de 2 degrés si on ne brûle pas trop de pétrole, à 8 degrés si on brûle tout ce qu'on peut de pétrole et de charbon. Pour la biodiversité, c'est assez simple aussi. On estime qu'en ce moment, il y a 100 fois plus d'espèces qui disparaissent qu'en temps normal. C'est-à-dire qu'on est en train de faire disparaître beaucoup d'espèces. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. C'est arrivé en fait 6 ou 7 fois. C'est ce qu'on a appelé à chaque fois une grande extinction. La dernière qu'on connaisse, vous en avez entendu forcément parler, c'est celle des dinosaures. La dernière grande extinction dans l'histoire de la Terre, c'est la disparition des dinosaures. Et on est en ce moment dans une période de grande extinction. Ça veut dire que les tigres, les ours blancs, les machins, c'est nos dinosaures en ce moment. Ça veut dire que dans 100 ans, il y en a une bonne partie qui auront disparu et qui n'apparaîtront jamais. On est en train de les faire disparaître, on sait aussi que c'est de notre faute. Voilà. Donc c'est les trois grands problèmes. Et pour vous montrer le problème des flux d'azote et de phosphore, c'est-à-dire des engrais, j'ai ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est la mer Baltique. Alors la mer Baltique, c'est au nord de l'Europe. Il y a l'Allemagne, on va là, l'Allemagne, la Pologne. Là, on voit la Suède, la Finlande, la Norvège. Donc c'est la mer du nord de l'Europe. Elle est un peu fermée, ce qui explique en fait son problème. Son problème, c'est que tous les engrais, tout ce qu'on cultive sur ces pourtours, arrivent dedans. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une zone verte. C'est un peu vert. C'est une image satellite. Cette zone verte, c'est des algues qui se sont développées grâce aux engrais. Quand les algues, elles meurent, elles tombent vers le fond et elles sont dégradées par des bactéries. Et ces bactéries, pour ce faire, elles consomment l'oxygène de l'eau. Vous savez que dans les aquariums, on met des bulleurs pour les poissons. Ouais, dans les océans, il n'y a pas de bulleurs. Si jamais les bactéries consomment l'oxygène, les poissons n'ont plus d'oxygène, ils ne peuvent plus respirer et ils meurent. Cette zone-là, qui est en rouge sur la carte du bas, c'est ce qu'on appelle une zone morte. Dans cette zone, il n'y a pas un poisson qui nage. Plus un. Ils sont tous tombés au fond et sont morts. Au fond de ces océans-là, on trouve les cadavres de poissons, de crabes et tout ça. Il n'y a plus d'oxygène. C'est la plus grande zone morte du monde. Voilà. Donc, quand les scientifiques disent « ça pose un problème et on a déjà enfoncé les bornes », c'est ça qu'ils veulent dire, c'est que ça peut être problématique et ça se produit à l'embouchure d'à peu près tous les fleuves qui reçoivent des engrais dans le monde. Voilà. C'est juste pour vous dire que ça, c'est même pas pris en compte dans l'empreinte écologique. Mais les 9 problèmes, en fait, sont très peu pris en compte dans l'empreinte écologique. Ça, d'un point de vue juste pour notre développement à nous, ça ne nous gêne pas trop, sauf que ça réduit le nombre de poissons qu'on peut pêcher quand même. C'est le genre de boucle de rétroaction dont je parlais tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut se développer durablement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et où est-ce qu'on a des efforts à faire? Alors, pourquoi on n'y arrive pas? Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles on n'y arrive pas du tout à faire du développement durable. La première raison, c'est la population. En fait, si on regarde, l'indice de développement humain du monde entier est en train de progresser, c'est-à-dire que l'on progresse globalement. Et l'empreinte individuelle n'a pas augmenté, au contraire, en fait, elle a plutôt diminué, elle est restée stable au niveau du monde. Ça veut dire que les gens qui vivaient il y a 50 ans, ils avaient la même empreinte que nous, bien que nous, on consomme plus de carbone. On fait certaines choses plus efficacement. La seule chose, c'est que la population globale du monde a augmenté. Donc avant, ils avaient peut-être, en 1961, ils avaient 4 hectares disponibles par personne. C'était tranquille. Mais aujourd'hui, on n'en a plus que 1,8. Parce que dans les pays pauvres, la population a doublé depuis 1980. Dans les pays en voie de développement, elle a été multipliée par 1,5. Et nous, elle a cru un petit peu, mais elle a cru quand même. Donc ça, c'est la première raison. Alors, voici une projection de l'évolution de la population, parce que vous vous demandez si ça va durer, cette croissance de la population. La réponse est, sans doute pas. On va sans doute stabiliser, aux alentours de 2040-2050, la population à quasiment 10 milliards d'habitants. Et au-delà, on pense que ça ne croîtra pas trop. Notamment, par exemple, vous voyez, la courbe bleue, c'est l'Europe. En 2010, on devrait être arrivé un peu à un maximum. Soit ça va se maintenir, soit la population européenne risque même de rediminuer un peu. Parce qu'on ne fait pas énormément d'enfants. Par contre, vous voyez l'océan, ça monte, donc voilà, l'Afrique, l'Asie un petit peu aussi. Mais l'Asie, même chose, en 2050, ça va continuer. Le fait qu'en Chine, on ne soit pas autorisé à faire plus d'un enfant par couple, ça joue beaucoup sur ce genre de choses. Il y a une raison, une deuxième raison, qu'on a déjà commencé à voir avec l'empreinte carbone, l'empreinte écologique, c'est le carbone, le CO2 qu'on envoie dans l'air. C'est qu'en fait, on en consomme de plus en plus. On consomme énormément de pétrole, on a consommé à peu près jusqu'à maintenant environ la moitié du pétrole dont on sait qu'il était sous terre au départ. Et on en consomme, pour vous donner une idée, en France, on consomme l'équivalent, en termes d'énergie fossile, de 120 millions de tonnes d'équivalent pétrole. On est environ 60 millions. Ça veut dire qu'individuellement, on consomme environ 2 tonnes de pétrole, ou d'équivalent pétrole, chaque année. Même vous, vous comptez pour 2 tonnes, 2000 litres de pétrole. Et donc ça, on y est habitué, c'est quasiment gratuit, c'est pas cher. Le pétrole, même quand on dit que l'essence, elle est chère, c'est vrai. Et tout le monde rêve de faire comme nous, donc tout le monde rêve de consommer. C'est ça la raison numéro 2. La raison numéro 3, c'est l'agriculture. On a pris aussi une culture du gaspillage, surtout dans les pays industrialisés. On jette 40% de notre nourriture. Quand on voit l'empreinte que ça a, l'empreinte écologique, la nourriture, elle compte pour beaucoup. On pourrait en fait utiliser beaucoup moins de surface, chacun, si on ne jetait pas autant. Et aussi, on consomme beaucoup de viande, et on les nourrit avec des céréales, on consomme aussi beaucoup de surface. Et puis de l'eau. Bien. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que bon, ça, c'était les raisons, d'accord, pour lesquelles on n'arrive pas pour l'instant à faire du développement durable. Mais tout le monde ne doit pas jouer de la même manière sur ces raisons. Nous, on est des pays riches. Le truc, c'est qu'on doit descendre dans la courbe, c'est-à-dire consommer moins de pétrole et diminuer le gaspillage de nourriture. Peut-être manger un peu moins de viande aussi. À voir. Pour les pays pauvres, c'est pas la même chose. Eux, ils mangent très peu de viande, ils consomment très peu de pétrole. Il faudrait qu'ils aient le droit d'en consommer un peu plus, histoire de se sortir de la pauvreté et de se développer en éduquant la population. Ce qui est un très bon moyen de stabiliser en plus la population. Parce que quand on améliore le système de santé et qu'on éduque la population, on s'aperçoit que les gens ont moins d'enfants. Donc éduquer les pays pauvres, c'est un moyen de réduire leur croissance démographique. C'est une très bonne chose. Puis ils ont un rôle à même que nous. Donc c'est ce que je disais. La voie pour stabiliser l'éducation, c'est de faire finalement du développement durable. En faisant du développement durable, on fait un peu d'une pierre deux coups. Alors en France, on peut se demander, quelle est notre empreinte écologique et comment ça se passe? La biocapacité, c'est-à-dire la surface d'hectares moyens dont on dispose en France, c'est 3 hectares. Ça veut dire qu'en France, on a de la chance, on dispose de quasiment deux fois plus de ressources que sur le reste de la planète. On est un pays qui a énormément de chance. Mais on consomme en fait, pour faire tout ce qu'on fait en France, on consomme 4,27 hectares, et si on regarde ce qu'on consomme, on se rend compte de ce qu'on importe. Parce que quand vous importez un produit ou que vous prenez de la viande qui a été produite à l'étranger, ben, l'hectare dont vous avez besoin, il était à l'étranger. Il faut le compter dans les hectares dont vous avez besoin. C'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 5. Ça veut dire qu'on importe que, en fait, en gros, les pays comme d'Amérique du Sud, qui font beaucoup d'élevage, eh ben, il y a une forte proportion de leur surface qui est consacrée à nous, les pays industrialisés. Alors, comment ça se répartit cette consommation? En terre cultivable, on dispose de 1,46 hectares et on n'en utilise que 1,10. Ça veut dire qu'il y a des terres cultivables en France qui ne sont pas spécialement utilisées. En pâturage, il y en aurait 0,27 et on en utiliserait 0,25. Ça veut dire qu'on est à peu près au maximum. Mais il nous reste la possibilité de transformer, si on veut, quelques terres cultivables. Alors, donc, 0,27, c'est pas ce qu'on a. On a 0,25 et on consomme 0,27. En gros, ça veut dire qu'on en importe un peu, on importe de la viande. Et si on voulait, on pourrait transformer de nos terres cultivables en pâturage. Ça se fait. Le contraire, non, mais ça se fait. Donc, bon, en fait, finalement, des pâturages, si on en avait besoin de plus, on pourrait le faire. C'est ça que ça veut dire. La forêt, on en dispose de 0,90 et on en utilise 0,64. Ça veut dire, en gros, le chiffre traîne, c'est que, en gros, on n'utilise que la moitié du bois qui pousse en France. La moitié de ce qu'on aurait le droit de ramasser tous les ans, on ne l'utilise pas. D'accord? C'est un peu un gâchis, on va en reparler. Alors après, il y a deux chiffres qui sont intéressants que j'ai mis en gras. C'est ceux qui, finalement, donc tout ce qu'il y a avant, finalement, c'est durable. En France, on n'agit pas trop sur l'environnement via les pâturages, les terres cultivables, même la forêt. Tout ça, ça se porte plutôt bien. Non, le problème, c'est plutôt la mer. On aurait 0,16 hectares disponibles pour produire des poissons. Et on consomme environ deux fois plus de poissons que ça. Si on compare à ce que fait le reste du monde, en fait, consomme 0,11 et a 0,16 de disponible. Ça veut dire que nous, on est dans la moyenne du disponible. On est dans la moyenne du disponible, et par contre, on consomme deux fois plus que le reste du monde du poisson. Donc on mange trop de poissons. Pas de la bonne façon. Et puis, il y a l'empreinte carbone qui fait la moitié de toute notre empreinte écologique. Donc finalement, ça ne fait que confirmer le fait qu'il faut consommer moins de pétrole et de charbon pour y arriver. Alors, pour vous donner une idée, voilà comment on consomme l'énergie en France. Les trois quarts de l'énergie qu'on consomme, c'est des énergies fossiles. C'est pour ça que notre empreinte carbone est si élevée. Le reste, on a de la chance. L'hydroélectrique, le nucléaire et le bois, ça n'émet pas de CO2. Le bois, je vous ai expliqué pourquoi on ne pouvait pas le compter comme émettant du CO2. Et c'est pour ça que finalement, notre empreinte carbone, on est même plutôt bon, globalement, dans le monde. D'accord? Ça peut être énorme sur notre empreinte à nous, c'est moins que l'Allemagne, par exemple. Parce que eux, ils ont moins de nucléaire, ils ont plus de charbon. Alors, vous avez donc écouté les médias, vous avez sans doute entendu les gestes qu'il faut faire pour essayer de préserver l'environnement. Donc, vous avez entendu parler du fait d'éteindre la lumière, d'éteindre les appareils en veille, d'économiser l'eau en prenant des douches, pas des bains, des chasses d'eau, des ampoules basse consommation, parce que de toute façon, c'est l'industrie qui consomme énormément d'énergie, et que utiliser des éoliennes et des panneaux solaires, ça pouvait sans doute remplacer une partie de notre énergie. Donc tout ça, vous l'avez sans doute entendu, pas tout ça, c'est faux. En fait, c'est n'importe quoi. Donc pourquoi ? Bah, il suffit de regarder qui consomme vraiment l'énergie. Alors voilà comment on consomme l'énergie en France. Vous voyez, le plus gros morceau de tous, c'est le résidentiel, 30%. Ça veut dire que c'est nos maisons qui consomment un tiers de toute l'énergie qu'on utilise. Et en plus, pour 75% de ce tiers, c'est du chauffage. Ensuite, il y a les voitures, qui est une part importante, c'est pas la... Effectivement, il y a l'industrie qui consomme un quart de toute l'énergie. Et ce qui consomme de l'énergie, en fait, c'est de fabriquer le papier, l'aluminium, le verre, et tout ça. C'est la fabrication des matières premières. Donc en fait, au final, c'est nous qui les consommons quand même. Donc on en est aussi un petit peu responsable. Et puis il y a les voitures particulières, individuelles, qui consomment 14% de toute l'énergie. Si vous faites la somme des maisons plus des voitures, vous arrivez à 44% de l'énergie qui est consommée directement par les particuliers. C'est environ deux fois plus que l'industrie. Donc l'idée que l'industrie doit faire des efforts, elle est complètement fausse. Ceux qui ont des efforts à faire, ceux qui souffriront de faire des efforts, c'est nous, directement. Bon, et puis le reste, ça nous concerne quand même. Alors, pour tout vous dire, on est dans un lycée. Le lycée, ils sont comptabilisés dans le tertiaire, là. Et dans l'éducation, 88% des dépenses énergétiques, c'est le chauffage. Avec les hauteurs de place sociale, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, ça, ça permet de dire qu'on a tout faux. C'est les particuliers qui consomment l'énergie. Et qu'est-ce qu'ils consomment vraiment ? C'est le chauffage, qui représente un tiers de toute notre consommation d'énergie. Si on prend tout en compte, le chauffage, c'est 35% de notre consommation d'énergie. Donc, quand on veut faire des gros gestes, on va jouer sur le chauffage, pas sur l'éclairage. L'éclairage, c'est moins de 2% de toute notre consommation. Donc, il y a des petits gestes qui représentent des petites économies d'énergie qui ne servent pas à grand-chose, et les gros gestes, c'est-à-dire moins de transport, moins de chauffage. Voilà. Et un autre truc à dire, c'est que quand on fait des petits gestes, on se donne aussi bonne conscience. C'est-à-dire qu'on se dit, oh bah arrête, j'ai éteint la lumière, aujourd'hui je vais pouvoir prendre ma voiture pour aller acheter ma baguette de pain. Et bien, le problème, c'est que c'est pas du tout le même ordre de grandeur d'énergie, vous avez presque rien économisé comme énergie, vous en avez gaspillé pas mal en prenant votre voiture. C'est pas en mettant des ampoules de basse consommation qu'on peut continuer à rouler en 4x4, c'est pas du tout le même ordre de grandeur d'énergie. Bien, on va voir ce qu'on peut faire pour tout ça. Alors, il y a aussi le problème des autres sources d'énergie. On a un peu l'impression en ce moment, avec toutes les éoliennes qui poussent, les panneaux solaires et tout ça, que ça va résoudre notre problème énergétique. Non, ça ne peut pas. En fait, on consomme 85 millions de tonnes de pétrole par an, et il n'y a rien qui est capable de fournir autant d'énergie. D'accord ? On peut espérer que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques puissent nous apporter environ 10% de notre énergie électrique, c'est-à-dire les 2 à 3% de notre énergie totale. D'accord ? Comparé à 75% de pétrole, c'est rien du tout. On n'y est pas, et de très très loin. Donc il va falloir développer cette énergie. Mais ça ne va pas du tout remplacer le pétrole. Pas du tout. Donc la seule façon, c'est de l'économiser. La seule façon qu'on ait de s'en sortir et de faire du développement durable, c'est de l'économiser. Alors, effectivement, on ne peut pas, on ne ramasse même pas toute la moitié du bois qui pousse. C'est-à-dire que pour l'instant, on préfère brûler du gaz, parce que c'est plus facile, que du bois. Parce que ça passe mal dans les tuyaux, le bois. Bref. Alors, si on s'y mettait vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors déjà, on pourrait s'isoler. Si on isolait vraiment les bâtiments, en fait, on n'aurait quasiment plus besoin de chauffage. Mais quand on dit s'isoler, c'est s'isoler vraiment. Mettre 30 cm de laine de verre partout, double, triple vitrage partout, des VLC qu'on appelle double flux, c'est-à-dire pour l'instant, vous avez des aérations qui vous amènent de l'air frais de l'extérieur, voire même de l'air froid. Ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent de l'air chaud à l'intérieur et qu'elles rejettent dehors. Comme gaspillage d'énergie, on a difficilement fait mieux. D'accord ? C'est en gros un quart du gaspillage de chauffage dans les maisons. Et bien, si on faisait les choses de façon intelligente, on pourrait prendre la chaleur de l'air chaud qu'on rejette pour la mettre dans l'air froid qui rentre. Ça, c'est une façon intelligente de faire. en faisant les choses de façon intelligente, on pourrait presque se passer de chauffage. C'est ce qu'arrive à faire les Suédois. Suédois, pourtant, il fait froid en Suède, il n'y a pas de doute. Et bien en fait, ils se chauffent quasiment plus aux énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on peut espérer faire sauter 30% de notre consommation juste en faisant les choses intelligemment. Il y a un truc à savoir aussi, toutes les dépenses d'isolation sont rentabilisées en 5 ans. Si vous mettez, ça coûte cher l'isolation. Par exemple, ça coûte, mettons, 10 000 euros de s'isoler correctement pour une maison. C'est énorme, d'accord? Mais il faut savoir aussi, vous pourrez demander à vos parents, la facture moyenne, en gros, d'énergie d'une maison mal isolée, c'est 2 000 euros par an. Si vous économisez 2 000 euros par an, en 5 ans, vous avez gagné de l'argent. Mais ça, les gens ne savent pas encore assez. On pourrait sans doute gagner 20% d'énergie sur le transport, en prenant plus le train et en ayant des transports en commun plus développés. Pour l'instant, en ville, on utilise des voitures qui ne sont pas du tout efficaces. Quand vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, il n'y en a que 20% qui sert à avancer. En gros, il y a 20 centilitres qui servent à avancer, tout le reste, ça sert à rien. C'est gaspillé sous forme de chaleur. C'est pour ça que le chauffage, c'est gratuit dans les voitures, mais pas la clim. Voilà, on pourrait utiliser du bois pour économiser beaucoup de chauffage de gaz. Enfin, ça pourrait lui permettre de remplacer du gaz. Et puis, ça peut permettre aussi de faire de l'électricité si on a besoin. On pourrait gagner 5% sur l'industrie, sans doute en économisant des matières premières, forcément moins de carton, de verre, d'aluminium. Et puis, on pourrait remplacer, c'est ce que je vous disais, de 2 à 4% du pétrole par d'autres sources d'énergie renouvelables. Pas beaucoup plus, pas dans l'immédiat en tout cas. Bilan, avec ça, on pourrait arriver à économiser 65% de toute notre énergie. Et tout ça sur les énergies fossiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est plus ou moins engagé à faire pour 2050. Donc, parce qu'en fait, les scientifiques ont dit qu'il ne faut pas augmenter les gaz à effet de serre au-delà de 2015. Si au-delà de 2015, on continue à augmenter les gaz à effet de serre, alors on ne tiendra pas la limite des 2 degrés de réchauffement. Ça veut dire qu'en fait, d'ici 2015, il faut qu'on arrête de faire croître notre consommation d'énergie, et il faut qu'on arrive à prendre cette voie-là. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est pressé, c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup maintenant du développement durable. Et ce qu'on s'est engagé à faire pour 2050, c'est à diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, donc quasiment à diviser par 4 notre consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire arriver à peu près à ça. Ah, mais 2050, c'est loin, hein, les politiques, ils n'ont pas de problème aussi pour ça pour l'instant. Donc en conclusion générale, notre modèle de développement, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il va nous poser problème. Que ce soit parce que le pétrole risque de manquer, ce qui devrait arriver à manquer, on aura plein de pétrole, y compris dans un siècle. La seule chose, c'est qu'on n'en aura sans doute pas autant que ce qu'on voudrait, et ce, d'ici une dizaine d'années. Donc, il va bientôt y avoir quelques problèmes. Que le défi du développement durable, il faut qu'on le relève maintenant, ou ça risque d'être catastrophique en termes de climat, en termes d'extinction des espèces, et bien ça risque, hein. C'est ce que dit le rapport Meadows, et pour l'instant, on n'est pas... Vous savez, le rapport catastrophique dont je parlais au début, on s'est demandé s'ils avaient raison ou pas. Maintenant que ça fait 30 ans qu'ils ont dit des choses comme ça, donc ils ont pris les modèles et ils ont comparé à l'évolution. Pour l'instant, on est dans le scénario business as usual, c'est-à-dire le scénario le plus probable prévu par le rapport. Ça ne veut pas dire que les catastrophes prévues par le rapport vont arriver, ça veut dire que pour l'instant, ils avaient raison sur les 30 années qui ont suivi leur rapport. Donc, ça peut être catastrophique. Il va falloir aider les pays pauvres absolument, parce que eux, ils ont des efforts dans le bon sens à faire aussi. Et nous, notre boulot, ça va être de gaspiller moins de nourriture, mais surtout de gaspiller moins d'énergie et d'en consommer beaucoup moins. Ça représente une dose de travail pour les générations actuelles, que ce soit en électrotechnique, pour faire les choses intelligemment, pour les compteurs intelligents, les choses comme ça, on en parle beaucoup. Tout ça, ça va représenter une dose de travail pour les générations qui viennent qui est absolument hallucinante. Si vous voulez vraiment isoler tout le parc de maisons qui existe, ça fait du boulot à vie pour tous les gens qui sont dans l'isolation en ce moment. Voilà, j'ai à peu près terminé. À vous de poser des questions. Merci.